Hors Case, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Hors Case, avec une émission pour les communautés LGBTQIA+, mais pas seulement. Avec ce soir, pour animer l'émission, on a Valérie.
Bonsoir.
Naturellement moi, Marine, et on a un invité qui s'appelle Alexandre Donnen.
Bonsoir.
Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez particulier qui s'appelle l'occupation de l'espace urbain, droit à la ville par les minorités sexuelles. Je ne sais pas si je suis tout à fait correct ou pas, mais avant de parler réellement du sujet, on va proposer à notre invité de se présenter.
Merci beaucoup déjà de m'inviter dans cette émission. Je m'appelle Alexandre Donnen et donc je suis actuellement doctorant dans le cadre d'un mandat du FNRS, donc du Fonds national de la recherche en Belgique francophone, sur des thématiques qui se situent au croisement des champs de la sociologie urbaine et du genre, de la sexualité, et où je travaille donc sur les relations entre la question de la transformation de la ville sur le plan social, urbain et de la visibilisation LGBTQ à Bruxelles. Et donc je fais ça dans un centre de recherche qui s'appelle l'Atelier Genre et Sexualité, qui est rattaché à l'Institut de Sociologie ici à l'ULB.
Ok, Alexandre, à mon tour de te souhaiter la bienvenue. Et effectivement, tu as écrit des articles sur l'occupation de l'espace urbain, donc le droit à la ville, comme l'a dit Marine, par les minorités sexuelles. Est-ce que tu peux nous faire un historique de comment les personnes et les espaces LGBTQ ont été appréhendés ces 40 dernières années à Bruxelles ?
Oui, alors un peu au-delà peut-être des 40 dernières années, ce que la littérature nous montre, notamment via Oannès Dupont ou Gonzague Pluvinage, c'est qu'à Bruxelles, il y a eu quand même un nombre assez important, et particulièrement important, de lieux qui étaient fréquentés spécifiquement par les personnes gays et lesbiennes avant la formation d'un quartier gay ou de formes d'agglomération commerciale comme on en connaît aujourd'hui dans le centre-ville, et donc qui étaient soit effectivement des lieux qui étaient dans des bâtiments mais qui étaient plus ou moins cachés, plus ou moins visibles, mais aussi des lieux de rencontre et de cruising dans des parcs, aux abords des gares, aux abords du canal aussi. Alors la formation du quartier gay, disons, en tout cas de cette agglomération-là, elle se voit en particulier à partir des années 1970, et elle se place d'abord plutôt dans les quartiers au nord de la Grand Place, vers la rue des Bouchers, et se déplace en fait au fil du temps, un peu en fonction des mouvements de rénovation urbaine. Et donc il faut savoir qu'il y a, une relation, disons, opposée historiquement entre le placement du quartier gay et les mouvements de rénovation urbaine, c'est-à-dire que les quartiers gays historiquement s'inscrivent dans des quartiers qui sont plutôt délaissés par les pouvoirs publics et par les populations dominantes. Et aujourd'hui, la relation change. Et va aussi se visibiliser, gagner en légitimité en fonction en rapport aux mouvements de revendications qui prennent de l'ampleur et des gains sociaux et politiques aussi gagnés par les populations LGBTQ. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'abord des lieux qui sont plutôt méprisés. Sur le plan politique, juridique, social, j'ai retrouvé notamment dans des anciens magazines Antenne Rose, donc qui est l'ancien magazine de Telle Quelle, qui avait des articles qui montraient jusque assez tard dans les années 80 comment se défendre face à des contrôles policiers, donc ce qui montre qu'il y avait des contrôles policiers musclés au moins jusque tard dans les années 80. Il y avait aussi des attaques par des groupes hostiles et puis des attaques disons plutôt politiques et juridiques. L'ancien bourgmestre de la ville, Xavier de Donéa, il avait pour réputation de fermer les établissements qui ne lui plaisaient pas, et notamment les établissements gays et lesbiens. Et alors, il y a aussi eu l'affaire un petit peu emblématique de Michel, enfin l'affaire Vincino. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle un peu.
Oui, comme ça, les auditeurs qui ne connaissent pas voilà, peuvent avoir la référence.
Ouais. Ok. Ben, du coup, Michel Vincino, donc, c'était un professeur de droit ici à l'ULB et qui avait ouvert avec son compagnon au début des années 80, je pense en 83, si je ne me trompe pas, un sauna gay qui s'appelait à l'époque le Macho 2, maintenant, enfin, qui existe toujours, qui s'appelle le Macho sur la rue du Marché au Charbon. Et il avait été poursuivi par le ministère public pour tenue d'une maison de prostitution ou de débauche. Alors, il n'y a rien qui n'attestait la tenue d'activités prostitutionnelles, mais donc il y avait eu tout un débat voilà, public vraiment notoire sur qu'est-ce qu'un lieu de débauche. Alors même que, bon, en Belgique, il faut savoir que l'homosexualité n'a jamais été pénalisée. Et donc, le débat se jouait sur d'autres termes. Il en a résulté qu'il a fait 4 mois de prison préventive à la prison de Saint-Gilles et qu'il y a eu voilà, vraiment tout un débat notoire là-dessus. Il a eu plusieurs condamnations et puis au final, il a été acquitté. Mais il y avait quand même eu cette déclaration de la cour d'appel, je pense, de Bruxelles qui vraiment, en gros... condamnait l'homosexualité plus que voilà donc c'était vraiment ça qui traversait disons ce débat autour de la question de la débauche et voilà et ben pour la Pride pareil hein, la Pride donc elle arrive à Bruxelles enfin elle s'établit elle se stabilise à Bruxelles à partir de 96 et en tout cas jusque 2001 et un changement dans le conseil dans le collège plutôt à la ville de Bruxelles et donc l'arrivée de Bruno Delisle donc un militant gay au collège communal la Pride donc avait l'interdiction de passer par les rues fréquentées du centre-ville et donc était cantonnée à des boulevards en fait un petit peu périphériques et qui était complètement vide quoi. Et donc c'était, bah, évidemment, c'était un enjeu important pour les communautés de d'être visible pour gagner en légitimité. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout pareil. Hein. La Pride, c'est un des événements majeurs et qui ramène le plus de monde à Bruxelles. De manière plus générale, la police, elle n'intervient plus de manière répressive dans le quartier gay. Les attaques, elles sont en général toutes publiquement condamnées. L'État ne fait plus recours aux outils juridiques pour démanteler les établissements. Et voilà, plus généralement, les espaces LGBTQ sont soutenus, sont promus et sont valorisés. Et voilà, pour des raisons qui sortent quelquefois de l'unique contexte d'une plus grande acceptation et d'une plus grande tolérance. Mais je pense qu'on va... en revenir un petit peu plus tard.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour info, Bruno Delisle, dans mes souvenirs, c'est aussi la personne qui a fait en sorte que la Rainbow House puisse se constituer, hein, et qui a obtenu de la ville, justement, un bâtiment pour pouvoir héberger la... C'est une fédération, quoi. Donc, c'est la même époque. Non,
ouais, tout à fait.
Ouais. Et donc, il y a, dans ce que j'ai lu de tes travaux, il y a quelque chose qui m'a interpellée. À un moment, tu expliques qu'il y a eu un basculement. Donc, ce que tu identifies comme l'inversion de la question homosexuelle, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Ouais. Ben, l'inversion de la question homosexuelle, c'est un concept ou plutôt une notion que j'emprunte en fait au sociologue français Éric Fassin. Et donc c'est en fait l'idée que la construction sociale, politique, juridique du problème, de ce qu'on constitue comme un problème, se déplace depuis l'homosexualité vers l'homophobie. C'est-à-dire que l'homosexualité est de moins en moins ce qui pose problème. Et en parallèle, on se dote d'outils juridiques, politiques, sociaux pour lutter contre l'homophobie qui devient donc un objet d'intérêt politique, si on veut. Et donc moi, ben, j'utilise ce concept surtout pour comprendre cette inversion et plus largement pour comprendre comment la transformation des regards sociaux et politiques sur les personnes et les espaces LGBTQ s'imprime en fait dans la ville, si on veut, à la fois par l'intermédiaire d'espaces, événements assez emblématiques, disons comme le quartier gay ou la Pride, mais aussi par des objets plus éloignées de ces centralités et par exemple, comment est-ce qu'on passe d'une période où à peu près tout le monde s'en fout, voire où on lutte en fait contre ces espaces à une période où on organise une Pride à Anderlecht et on met des passages piétons arc-en-ciel un petit peu partout, ce qui a l'air d'être évident aujourd'hui, mais ce qui n'était pas du tout il y a de ça quelques années, en fait. Et donc voilà, moi j'utilise surtout ce concept-là pour comprendre comment la transformation des regards s'imprime dans la ville.
Alors, on va revenir un peu plus sur la région bruxelloise, qui s'est donné comme objectif quand même de faire de Bruxelles la capitale LGBT-friendly d'Europe. Quels sont les enjeux de cette politique, justement, de devenir la capitale friendly d'Europe? Comment, est-ce qu'il n'y a pas un peu de pinkwashing, des choses comme ça?
Les enjeux sont multiples, je crois. Cet objectif-là, bien précis, de devenir la capitale la plus LGBT-friendly d'Europe, en fait, il apparaît à partir de 2016 dans les plans d'action touristique, donc édité par Visit Brussels, donc qui est l'organe du tourisme de la région bruxelloise. Et donc, dans ce cas-ci, très précisément, la logique est assez évidente et elle est donc touristique. Parce qu'en fait, à l'époque, l'organe se rend compte qu'il y a une niche de marché qui n'a pas été particulièrement exploitée jusque-là. Et a fortiori, une niche qui voyage et qui dépense beaucoup. Évidemment de cette niche, mais je suppose qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et donc ça s'inscrit en fait dans un moment où à la région bruxelloise ça fait déjà un petit temps, mais où en tout cas le tourisme est pensé comme un nouvel outil du développement urbain et économique. Mais plus largement, la question de la construction d'une ville inclusive, donc qui est menée par la région bruxelloise depuis quand même un certain temps. Moi, j'essaye de montrer que il y a justement des enjeux qui sont multiples, qui sont parfois antagonistes, avec une cohabitation au sein des mêmes instruments, comme par exemple les plans d'action de lutte contre l'LGBTQ-phobie. Entre une logique effectivement de reconnaissance et d'inclusion avec des politiques publiques qui sont actives en la matière, avec des budgets consacrés, etc. Et une logique qu'on pourrait appeler, disons plutôt instrumentale, c'est-à-dire où les catégories sociales et parfois spatiales aussi LGBTQ sont construites comme des instruments qui servent à d'autres intérêts, à d'autres fins que la lutte, par exemple, contre les violences et les discriminations que les communautés subissent, à des fins, par exemple, touristiques, comme on vient d'en parler. Et cette logique instrumentale, moi, c'est ce que j'essaye de montrer, elle s'inscrit en partie dans la transformation de la gouvernance urbaine, en gros vers des pratiques qui sont aujourd'hui davantage entrepreneuriales et où le développement économique de la ville et de l'emploi est devenu une donnée fondamentale, disons, dans la façon dont on pense et on construit la ville, parce qu'on est dans un contexte où la compétition interurbaine pour l'attraction des flux, alors des flux de nouveaux ménages solvables, mais aussi des flux de nouveaux talents, d'entreprises, d'investisseurs, etc., s'accroît. Et que donc par là, on va développer des politiques d'attractivité qui rendent centrale, par exemple, la dimension du peuplement de la ville, mais aussi la dimension de l'image, quoi. Et donc cet objectif-là, donc faire de Bruxelles la capitale la plus LGBT-friendly d'Europe, on voit qu'il y a une dimension de la compétition, c'est être le plus, quoi. Et donc en tout cas, s'afficher comme friendly, parce que se revendiquer comme friendly, ça veut pas nécessairement dire qu'on l'est, hein, mais en tout cas, on s'affiche comme tel et on voit que ça fait aujourd'hui partie de la compétition entre les villes, quoi.
Ok, et donc on entend qu'il y a une volonté en sorte de économique. Il y a une volonté quand même, tu parlais de par rapport au flux social, au flux de ménage, au niveau peut-être du travail également. Donc il y a quand même finalement des enjeux qui sont multiples derrière, mais qui heureusement s'accompagnent aussi de plans d'action réellement de la ville. Donc c'est toujours important de mettre ça en parallèle pour vraiment augmenter l'inclusion justement de LGBTQIA+ et de lutter contre les LGBTQI-phobies. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais quelles sont les conséquences, on va dire, positives ou négatives justement de cette politique d'inclusion au niveau des transformations des quartiers voilà.
Ouais. J'ai pas envie d'asseoir, disons, une logique qui soit à proprement normative, parce que je reste quand même plutôt dans un registre analytique. Alors, bien sûr, j'ai mes propres opinions et je peux poser une critique là-dessus. Et aussi, en fait, moi, j'analyse pas non plus vraiment les effets concrets des politiques publiques, mais plutôt les imaginaires qui sont produits, les publics à qui elles s'adressent, etc. Mais en fait, on voit que ces imaginaires-là, ils sont les lieux de tension, que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont on pense et on construit la ville inclusive. Je pense à la façon dont la Pride aujourd'hui est organisée. Et avec toute la critique qu'il y a autour de la dépolitisation de la Pride, justement, au profit d'une propension de plus en plus festive, touristique, avec notamment l'inclusion depuis une dizaine d'années de Visit Brussels, justement, dans le comité d'organisation, à un moment où la Pride était au bord de la faillite. Et donc là-dessus, on voit qu'il y a des collectifs, notamment le collectif VNR et Réclame de Pride, qui s'opposent à ces logiques-là et des espaces aussi qui se construisent en partie en opposition, par exemple, au quartier gay. Je pense à Nas Monique, qui essaye de construire des imaginaires socio-urbains en dehors des normativités qui sont produites par le quartier gay. Et donc on voit que les imaginaires et la logique de l'inclusivité qui est en partie produite par la région, déjà elle n'est pas homogène, hein. Il y a différents acteurs, en fait c'est un peu une arène où il y a différents imaginaires qui se produisent et qui parfois sont antagonistes, mais on voit qu'à ce niveau-là, les acteurs sociaux ne sont pas toujours d'accord non plus et donc posent des critiques. Et au-delà de ça, on se rend compte aussi que souvent les espaces, les événements et donc les vies qu'on promeut, qu'on valorise et dans lesquels on investit le plus, comme le quartier gay ou dans une moindre mesure la Pride, répondent aussi à certains standards de vie qui sont généralement plutôt tournés vers le consumérisme, qui sont tournés vers certains publics, généralement plutôt masculins, plutôt blancs, plutôt aisés, et donc ce qui laisse aussi de côté beaucoup de monde.
Oui, exactement. C'est très important si on pense toujours LGBT comme étant une communauté, mais on peut parler de communauté avec en effet des inégalités dans l'appropriation des espaces, comme tu viens de le dire, et du quartier en sorte gay ou qui est plutôt gay, homme, cis, blanc, plutôt aisé, comme tu as fait remarquer, qu'il y a peut-être peu de représentativité de d'autres personnes des autres communautés, en quelque sorte. Tu parles à un moment des questions de construction de communautés qui peuvent être gagnantes ou perdantes. Tu peux développer un peu pour nous expliquer ?
Ouais. C'est un peu en écho à ce que je viens de dire sur qu'est-ce qu'on promeut, qu'est-ce qu'on valorise. Moi, j'utilise ce concept justement pour penser les rationalités d'inclusion et d'exclusion qui résultent en fait de ces processus d'inversion de la question homosexuelle et plus largement des dynamiques de visibilisation LGBTQ pour montrer en quelque sorte qui sont les gagnants, entre guillemets, et les perdants de ces processus. Alors c'est une idée que je dois encore un petit peu affiner, mais j'aurais pu par exemple utiliser le concept d'intersectionnalité, qui en gros, pour les personnes qui ne savent pas, l'idée que l'imbrication des rapports de pouvoir génère des situations spécifiques, soit de domination, soit d'oppression. Mais ici, comme on est plutôt sur la construction de catégories qui sont issues de l'action publique, le concept de communauté gagnante fonctionnait bien, je trouve. En fait, c'est un concept que j'emprunte à Cesare Matina, qui lui travaille sur le contexte marseillais, sur les communautés juives, arméniennes, maghrébines, comoriennes. Et donc plutôt sur des catégories ethniques, disons, avec l'idée que dans un contexte de coexistence forte, la gouvernance urbaine, elle va établir également certaines communautés minorisées comme légitimes ou illégitimes par l'attribution asymétrique de ressources professionnelles, symboliques, politiques, etc. Et donc moi, en fait, ce que j'ajoute à ce concept-là, c'est que en fait, en retour, cette construction, elle produit aussi des ressources pour la ville, sur le plan symbolique, sur le plan économique, politique, de l'image de marque, etc., de la ville. Et donc, par exemple, vis-à-vis de ce dont on parle, à la fois, bien sûr, il y a eu des gains depuis une quarantaine d'années pour les communautés LGBTQ en termes de droits et de légitimité, de visibilité, tout simplement, mais qu'en retour, les communautés sont aussi devenues une ressource. Et alors, moi, je m'intéresse au développement urbain, mais donc une ressource pour le développement urbain. Et que, en fait, dans cette conception-là, on voit que finalement toute diversité ne se vaut pas, toute diversité n'est pas également rentable. Si je prends l'exemple des politiques touristiques, donc en fait, depuis 2014, je crois, mais j'ai peur de me gourer de date, mais disons depuis une dizaine d'années, donc Visit Brussels, c'est vraiment activé sur cette question de l'attraction LGBT, mais qui s'articule aussi en fait au soutien et au développement d'espaces et d'événements LGBT. Et donc à un poste qui est entièrement consacré à Visit Brussels, et qui est consacré je dis LGBT parce qu'il est consacré aux questions LGBT. Donc ça, c'est vraiment l'acronyme qui est utilisé. Mais dans les faits, alors même s'il y a quelques efforts qui sont faits pour le développement d'un tourisme lesbien, notamment via Girls Heard Brussels et des événements plus ponctuels comme ça, en fait, certains acteurs du tourisme considèrent que le tourisme lesbien est une pompe à fric. Et donc là, je cite un de mes intervenants dont je tairai bien sûr le nom, mais donc on voit qu'il y a quand même une déconsidération des budgets et des investissements qui ne sont pas pareils. Et sur le tourisme trans, c'est un complet impensé, par exemple. Et donc c'est là-dessus que moi j'interviens avec cette question de, en fait, quand on considère les communautés qui gagnent, qui perdent, enfin, qui est-ce qu'on considère et qui est-ce qu'on ne considère pas.
Ok, ça c'est... Nous, on le savait, mais c'est toujours super intéressant de...
Oh oui, tout à fait, de savoir qu'effectivement, les activités destinées aux lesbiennes, ça ne rapporte pas. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça.
En fait, c'est surtout quand on voit que les acteurs publics qui sont concernés par la question ont ce genre de représentation, c'est parfois inquiétant. Après, voilà, tout le monde chez Visit Brussels n'a pas cette conception-là, mais c'est des discours que j'ai entendus.
Oui, tout à fait.
Ouais, et c'est vrai que là, Bruxelles, par exemple, le nombre d'espaces lesbiens est extrêmement réduit.
Oui, il n'y a quasiment plus rien, quoi.
Exactement. Ouais. Et donc, on peut se dire qu'en effet, l'appréhension et la transformation à ce moment-là urbaine, et ce n'est pas qu'à Bruxelles, parce que c'est quelque chose qu'on remarque dans d'autres villes également, malheureusement. Les quartiers gays restent des quartiers gays, mais version homme, plutôt cis, blanc, etc. Et pas spécifiquement LGBT. Et il y a aussi des petits mouvements, comme tu l'as dit, dans l'histoire de transformation de quartier vers un autre, etc. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir mettre ça en avant, de se rendre compte que finalement, la ville a un impact indirectement sur les communautés, sur la manière d'interagir, sur les politiques et même indirectement sur la Pride. Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Oui, tout à fait.
Alors, on avait déjà un peu évoqué le pinkwashing. Est-ce qu'il y a du pinkwashing, justement, sur l'espace urbain pour les minorités sexuelles à Bruxelles ?
Il y en a sans doute un petit peu. Mais après, ce n'est pas un concept que j'utilise personnellement, parce que je pense que c'est un concept qui peut être parfois un petit peu vague, un petit peu fourre-tout et peut-être un petit peu rapidement utilisé, et qui avait en fait aussi été mobilisé et je pense qu'il a été qui a gagné en autorité, le concept a gagné en autorité, j'ai l'impression en tout cas par le journaliste Jean Stern, et donc pour le cas spécifique d'Israël, avec cette idée que le gouvernement israélien met en avant une image friendly, notamment pour masquer une homophobie un petit peu latente dans le pays. et aussi pour atténuer l'image politique, enfin l'image de la politique israélienne dans les territoires palestiniens. Et donc pour se laver en quelque sorte, hein, pinkwasher quoi. Et donc moi je préfère, en tout cas pour le cas bruxellois, parler d'instrumentalisation parce que c'est un autre contexte et parce que j'estime quand même que il y a effectivement une politique active en matière de lutte contre les violences et discriminations, mais qui cohabite donc avec ces logiques instrumentales où on construit donc les LGBT comme des instruments. Après il y a quand même quelques relents parfois, en tout cas de nationalisme, voire d'homonationalisme. Bon, enfin, comme on en a un petit peu parlé avec la question de la compétition interurbaine, il y a de fait cet enjeu nationaliste puisqu'on est inscrit dans une compétition. Mais on voit aussi en fait que la construction de cette image, elle doit participer à la construction donc d'une urbanité qui est associée à la modernité. Hein. Et on voit que Bruxelles et la Belgique veulent s'afficher comme modèle. Donc ça, on le voit notamment dans ces mêmes instruments, dans le même plan d'action, notamment pour les pays où les droits sont considérés comme bafoués, comme les pays du Sud ou de l'Europe de l'Est. Et alors, il s'agit aussi de la gestion interne de certains groupes associés à ces territoires et considérés comme particulièrement homophobes, avec en 2018, lorsque le secrétariat fédéral à l'égalité des chances était habité, disons, occupé par Zoël Demir, donc membre du Parti nationaliste flamand de la NVA. Il y a une sorte de tournant dans le dernier plan d'action interfédéral de 2018 en mobilisant l'homophobie comme une caractéristique spécifique de religion et supposément de race, en affirmant, par exemple, et là je cite un pan du plan, que les musulmans ont une attitude plus négative envers les personnes homosexuelles que les chrétiens, et en mobilisant plusieurs études très contestées, pour démontrer cette particularité, la particularité homophobe supposée donc, de ces groupes cibles, et ce qui avait conduit à diverses mesures. Bon, ce plan, il a été très critiqué, notamment par la société civile, par les associations et aussi par la sphère académique. Et donc, en fait, il a plus tellement d'importance ni de valeur aujourd'hui, d'autant plus que, une nouvelle majorité s'est formée depuis sans la NVA et qu'un nouveau plan, en fait, a été rédigé. Mais il a quand même, je me rappelle à l'époque, esquissé un peu cette frontière, en fait, à la ville inclusive, un nouveau groupe d'indésirables dans le cadre de cette construction avec les personnes d'origine arabo-musulmane.
Et donc, il y a toujours, en fait, une espèce de dualité entre ceux qui sont modernes, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont friendly, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont inclusifs au niveau des religions et ceux qui ne sont pas. Et en fait, on reste finalement dans une dualité, une binarité, en fait.
Oui, c'est ça un peu ce que j'essaie de montrer, c'est que dans ce processus de visibilisation et de normalisation et d'acceptation, en fait, il y a des rationalités d'inclusion et d'exclusion et des renvois en fait à qui en fait est considéré maintenant comme homophobe ou pas. Et voilà.
On pourrait dire que ce sont les conclusions de ton étude, de cette réflexion.
Les conclusions de l'article n'a pas encore été publié, ma thèse n'est pas encore finie, donc c'est dur à ce stade de vraiment parler de conclusions, en tout cas de conclusions fortes. Plutôt aujourd'hui des hypothèses que je tisse. Et ici, c'est vrai que dans le cadre de ce texte, ce que j'essaie de montrer, une de mes conclusions, c'est l'idée effectivement que cette transformation-là, cette inversion des rapports aux personnes et aux espaces LGBTQ, elle peut se lire aussi au-delà de ce contexte d'une plus grande acceptation, d'une plus grande reconnaissance envers les personnes et les espaces LGBTQ, aussi au travers de la transformation de la ville et plus particulièrement de la transformation de la gestion urbaine dans laquelle donc la visibilisation LGBTQ par le tourisme, par l'image de marque, par l'économie sexuelle qu'elle génère aussi, constitue une ressource à ce développement-là. Mais on voit, comme on a discuté un petit peu tout à l'heure, qu'il s'agit d'une diversité sélective, puisque les espaces, les événements, les vies dans lesquelles on investit n'ont pas toutes la même valeur.
Mmh. Okay. Moi, j'ai envie de poser la question. On a eu l'occasion, avec d'autres associations, donc avec Jean Pluriel et avec Execo, de pouvoir, tel quel, je précise, avoir le bâtiment des Grands Carmes. Ceci était impossible, je pense, il y a quelques années, même pas envisageable. Et bizarrement, les portes s'ouvrent. Donc, c'est vraiment, comme tu parles, d'une inversion. Et on nous laisse un espace, on nous laisse ce qui aurait été impossible avant. Ça fait partie de ce plan, justement, de la ville, genre de choses.
Enfin, j'ai pas non plus envie d'être mal compris et je veux pas tisser une sorte de complot comme quoi il y aurait un grand plan et qu'en fait toutes les politiques d'inclusion sont mauvaises, sont instrumentales, etc. Je pense qu'effectivement on est dans un vrai contexte aussi d'une plus grande acceptation et d'une plus grande tolérance où il y a aussi de plus en plus de personnes issues des communautés qui sont dans les partis politiques et qui ont un pouvoir et qui ont un pouvoir politique, et je pense que là-dessus ça joue aussi. Donc je pense qu'on doit pas non plus tout comprendre dans la démarche intellectuelle que moi j'essaye de poser, mais je pense
pas qu'il... tout assimiler automatiquement.
Voilà, bien sûr. Mais en fait, je pense que tout est une forme de cohabitation, en fait, qu'il y a différentes logiques en fait qui se croisent, parfois qui sont antagonistes et parfois pas, et qui en fait dans une logique de politique active, d'inclusion, de créer des espaces, etc., qui peut avoir des vrais bénéfices, il peut aussi y avoir une logique de, en fait, ça va renforcer l'image de Bruxelles à l'étranger, ça peut aussi avoir des enjeux électoraux, etc. Donc je pense que c'est plus une question de cohabitation qu'une question de tout à une logique homogène et unilatérale. Et voilà, je pense que les Grandes Carmes, c'est une bonne chose, par exemple.
Oui,
nous aussi.
Oui, c'est un vrai projet social santé, c'est très... Voilà, c'est innovant, quoi, c'est hyper important aussi. Donc, voilà, oui, nous aussi, on trouve que c'est important. Alexandre, des projets pour le futur, autres ou la continuité
Disons que là, j'arrive à la dernière année de ma thèse et que je me sens un petit peu en retard déjà. Et donc... je vais surtout passer mes journées à écrire là, dans un futur proche. Et donc voilà, pas de grands projets. Mais si j'en ai, évidemment, je vous en ferai part. Et aussi, j'avais participé du coup à l'organisation et au comité scientifique de l'exposition Queer Graphics qui a lieu au Musée du Design. Et voilà, elle a été prolongée jusqu'en janvier. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vue. Et que voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu aussi d'autres projets que j'ai eus.
Okay. Très chouette exposition, n'hésitez pas à aller la voir, qui permet de pouvoir voir au niveau visuel l'évolution en sorte des activités et certaines revendications et de différents services qui étaient proposés ou quoi pour les LGBTQIA+, ici à Bruxelles. Donc n'hésitez pas à aller la voir.
Non, effectivement. Je pense que nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre, ce fut un vrai plaisir et c'est hyper intéressant, quoi.
Merci à vous.
Merci en tout cas à toi. Et puis on se retrouve bientôt.
Au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir.
Hors Case, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.